Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de retrouver cette semaine où nous allons aborder la vie d'un homme important au cours du XXe siècle puisqu'il s'agit de Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger qui est né en 1927 en Allemagne, qui a longtemps été cardinal, préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, qui est une des congrégations les plus importantes dans l'Église catholique, nous y reviendrons, et puis qui est devenu pape en 2005 sous le nom de Benoît XVI, pape de 2005 jusqu'à 2013, au moment de sa renonciation, et qui est depuis 2013 pape émérite. Nous allons le voir, une vie extrêmement riche qui a traversé toute l'histoire du XXe siècle, la période nazie, évidemment, la guerre, le Concile Vatican II, les espérances et les problèmes de l'Église dans les années 1960-1980, avant d'être appelé à Rome par le pape Jean-Paul II et d'être l'un des plus proches collaborateurs de Jean-Paul II, l'un de ses bras droits et un homme qui a joué un rôle extrêmement important durant son pontificat. Et alors qu'il pensait prendre une retraite largement méritée en 2005 à la mort de Jean-Paul II, eh bien c'est lui que le conclave a choisi pour succéder au pape polonais, l'obligeant ou le contraignant à rester quelques années de plus à Rome dans une nouvelle tâche qui est celle de pape. Alors cette semaine, nous allons évoquer la vie de Joseph Ratzinger et la semaine prochaine, nous parlerons de Benoît XVI. Et pour en parler, je reçois cette semaine le père Clément Humbert. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes curé de la paroisse francophone de Vienne. Vous résidez donc en Autriche et vous avez traduit la biographie de Benoît XVI, biographie de Peter Siewald, biographie de Benoît XVI qui est donc parue en français aux éditions Cora, le tome 1 est paru et vous êtes en train de finir la traduction du tome 2. Donc les lecteurs francophones auront la joie de voir le tome 2. Cette biographie est une des plus, même la plus complète et la plus importante sur Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Peter Siewald connaît en plus Ratzinger depuis très longtemps puisqu'il connaissait avant qu'il ne devienne pape, donc c'est un livre extrêmement important d'ailleurs qu'on soit catholique ou non, parce que vu le rôle historique de Benoît XVI et de Ratzinger, c'est évidemment essentiel de le connaître, ne serait-ce que pour la vie intellectuelle et la vie religieuse de l'Église au cours du XXe siècle. Alors nous allons nous intéresser dans cette émission à Joseph Ratzinger, peut-être dire quand même quelques mots sur son enfance, parce que on voit bien qu'au cours de sa vie, ça l'a profondément marqué, cette vie en Bavière. Il était professeur d'université, il a une relation très, très proche avec ses parents, avec son frère et sa sœur. Et cette enfance, heureuse au début et puis difficile après, du fait du nazisme d'une part et de la guerre d'autre part, a beaucoup influencé sa manière d'être et sa manière de faire au cours des grandes responsabilités qui ont été les siennes.
Il est certain que son origine bavaroise a joué un grand rôle. C'est d'ailleurs une chose sur laquelle insiste beaucoup Peter Siewald, aussi bien dans le livre que dans différentes interviews qu'il a données lorsqu'il parlait justement de sa relation avec le pape Benoît et Joseph Ratzinger auparavant. Il a effectivement grandi en Bavière. Il a beaucoup bougé en Bavière. Son papa était gendarme, donc il a suivi la famille dans différentes mutations. Mais à bien des reprises dans le livre, il est fait référence à ce qu'il a reçu de cette terre. La Bavière, il faut imaginer un petit peu cette région extrêmement prospère, comme elle l'est toujours aujourd'hui. c'est aussi une région, la région catholique d'Allemagne, une région où tout est rythmé par effectivement un lien très 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 fluide, j'allais dire, entre l'appartenance à cette terre, avec le dialecte, avec tout un tas de traditions, avec l'appartenance à une foi et le sentiment vraiment de d'être chez soi, hein, le sentiment du chez soi. L'éducation de ses parents est une éducation certes religieuse, mais c'est aussi une éducation très bavaroise, et le sentiment d'une identité bavaroise est quelque chose qui l'a accompagné, de sorte que son retour ensuite dans sa terre a été l'occasion d'un pèlerinage où il a été salué par tous ses amis, par tous ses concitoyens, par des personnes qui lui sont restées extrêmement extrêmement fidèles.
Alors il a 5 ans lorsque les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne en 1933. Lorsqu'il a été élu pape, certains lui reprochaient d'avoir été membre des jeunesses nazies ou d'avoir participé au mouvement de jeunesse nazie, mais c'est une obligation. Enfin, on n'avait pas le choix quand on était enfant en Allemagne à cette époque-là, et parce que sa famille est une famille d'opposants au nazisme, et son père d'ailleurs a eu ça lui a porté préjudice pour sa carrière.
Tout à fait. Il est évident que c'était une obligation. Il est important de noter qu'il y avait deux catégories de jeunesse hitlérienne. Il y avait les volontaires et il y avait les forcés, justement. Et donc, il faisait partie de cette deuxième catégorie, ce qui lui a valu de ne pas porter l'uniforme, parce qu'ils étaient justement considérés comme indignes de porter l'uniforme nazi. Il y a été effectivement forcé. Il n'y avait plus le choix. À cette époque-là, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'éviter, aussi bien au petit séminaire où il était que dans sa famille, mais est arrivé un moment où, de toute façon, ça n'était plus une option. Il est vrai aussi qu'effectivement, sa famille est une famille de résistantes. Pas de résistantes, mais je dirais plutôt d'opposantes, car la résistante est une... voilà, peut-être une expression qui n'est pas tout à fait la... Elle a une signification différente pour nous peut-être que et pour les Allemands, mais il est depuis le moment où Hitler est arrivé au pouvoir, il était clair pour cette famille que c'était un mal. Et même si Monsieur Ratzinger père faisait en sorte que ne ce soit pas un sujet pour que les enfants puissent aussi se développer sereinement, il a tout fait pour éviter de rendre des services. L'autre chose que nous pouvons noter, c'est que l'encyclique rédigée par la main du futur pape Pie XII, qui était à l'époque le nonce en Allemagne, mit brennender Sorge, avec une grande inquiétude, une vive inquiétude, donc elle a été rédigée en 37, a été lue dans toutes les églises le 21 mars 1937. Elle était parvenue avec extrêmement beaucoup de prudence pour qu'il n'y ait pas d'interception par le régime nazi, de la main à la main, pour que chaque curé puisse la lire en même temps, le même jour, est apparue comme une bénédiction, une réjouissance, où effectivement Monsieur Ratzinger père s'est senti très très soulagé de voir que l'Église par là les grands prélats de cette époque-là avait acquis la même conviction que la sienne.
Vous l'avez dit, cette encyclique, une partie a été rédigée par le cardinal von Laber, qui était le cardinal archevêque de Munich, qui est celui qui ordonne prêtre les deux frères Ratzinger, et qui a été un des opposants farouches au nazisme. En 1940, il fait une homélie qui est restée célèbre, où il s'oppose frontalement au régime nazi. Ça a dû marquer aussi la formation, la conscience morale de ces deux frères d'avoir cet affrontement, et pour le coup une résistance frontale et directe de l'archevêque de Munich.
C'était une évidence pour eux, et effectivement d'avoir ce cardinal devant leurs yeux qui était si clairement opposé, les confortait, et confortait finalement dans cette certitude petit à petit grandissante que l'Église catholique était l'un des derniers remparts contre cette idéologie. À défaut de pouvoir résister réellement, parce que c'était vraiment un régime de terreur, des arrestations, en 37, l'année de l'encyclique, qui appelait justement à résister, il y a eu 3000 prêtres qui ont été arrêtés dans les semaines qui ont suivi, mais voilà, l'Église catholique a eu ce sentiment assez rapidement d'être le rempart et donc aussi d'être ce sur quoi nous pourrons nous appuyer après la guerre. Il y a eu un vrai renouveau spirituel avec des structures même étatiques qui étaient qui s'appuyaient vraiment sur la structure de l'Église catholique, était finalement la seule qui avait tenu bon dans ces circonstances.
Alors avançons de quelques années. Donc Joseph Ratzinger est ordonné prêtre en 1952 et 51, et il commence une carrière universitaire. Enfin, c'est un homme qui est porté vers la réflexion, vers le débat intellectuel, une grande passion pour Saint-Augustin, à laquelle il a consacré une de ses thèses. Et c'est un homme qui reste très profondément marqué par la pensée de Saint-Augustin.
Oui, Saint-Augustin a été l'une de ses grandes découvertes intellectuelles. Il l'a redit à bien des reprises. Il a été aussi se recueillir sur sa tombe à Pavie. Voilà, la rencontre avec Saint-Augustin a certainement influencé d'autres rencontres qu'il a fait après cela, avec Saint Bonaventure, avec le cardinal Newman. Mais il est évident que la Cité de Dieu, les Confessions ont été une étape majeure dans son développement intellectuel et spirituel.
Et puis il y a le Concile Vatican II qui s'ouvre, une grande surprise, parce que même si depuis quelques années il y avait des rumeurs de concile ou une volonté de terminer Vatican I, l'annonce par Jean XXIII de l'ouverture du concile est quand même une grande surprise pour tout le monde. Et c'est peut-être la première fois que Ratzinger a un rôle public ou un rôle important, puisque il suit son archevêque à Rome comme étant son conseiller sur la question théologique. C'est d'abord une marque de grande confiance. C'est lui qui a été choisi parmi de très autres nombreux professeurs, et ça lui permet aussi de découvrir Rome d'une part, et des débats intellectuels très vifs qui ont lieu durant le concile.
Le cardinal Frings, donc, qui est son archevêque, est particulièrement marqué par la pertinence des analyses de Joseph Ratzinger lorsqu'il l'écoute lors d'une conférence en Allemagne, de telle sorte qu'il lui demande, lorsqu'effectivement cette actualité du concile devient réalité, lui demande de l'aider à préparer une conférence à Gênes dans les mois qui précèdent vraiment l'organisation du concile. Donc cette rencontre de Gênes avec beaucoup de grands protagonistes, notamment le cardinal Cyril, archevêque de Gênes, est un moment qui est censé donner une touche particulière aux commissions préparatoires. Et donc le cardinal Frings prononce un discours qui a été écrit par Joseph Ratzinger, qui parvient au pape Jean XXIII, qui écrit personnellement de sa main au cardinal pour lui dire « Vous avez exprimé tout ce que je portais en voulant convoquer ce concile, je vous en remercie, je suis plein de gratitude, nous allons pouvoir commencer sur des bonnes bases. » Donc effectivement, ça montre la place qu'a Joseph Ratzinger, qui en même temps n'existe pas, puisque c'est toujours son évêque qui endosse ses prises de parole, mais dans le concile, cette grande figure qu'est le cardinal Frings, qui a une réputation de droiture, de hauteur de vue, une grande influence parce que l'Église allemande est vraiment au meilleur de sa forme, va du coup être et quelqu'un qu'on écoute. Voilà, et quelqu'un qu'on écoute. Et donc, effectivement, les textes sont très souvent repris tels quels ce que lui propose son peritus, donc son assistant théologique, ce qui permet de dire effectivement qu'il a joué un grand rôle, mais en même temps un rôle de coulisses.
Il y a un débat historiographique sur la manière dont le concile a été reçu par Ratzinger, parce que souvent on le présente comme quelqu'un qui était très favorable aux premières thèses et qui se serait un peu raidi, voire qui aurait fait volte-face en voyant la manière dont celles-ci ont été appliquées. Et on a du mal parfois à imaginer aujourd'hui l'élan de grande espérance du concile, un optimisme extrêmement important lors de sa clôture, et puis ensuite une décennie, voire deux ou trois décennies très compliquées pour le catholicisme en Europe et ailleurs. Qu'en est-il justement de la position de Ratzinger par rapport à ça et par rapport au aux espoirs que beaucoup avaient placés dans cet événement et qui, et ensuite les difficultés, voire les controverses qui ont eu lieu par la suite. Oui.
Le Peter Sewald se fait donc l'écho de la position du pape, me semble-t-il, en tout cas cette expression est de lui, que son interprétation a posteriori de ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu un concile des pères, donc des pères conciliaires, et un concile des médias. Hein, c'était le moment où finalement le monde médiatique, avec une diffusion massive de ce qui se passait, est arrivé. Avec, je dirais, peut-être les plus astucieux qui ont pris de l'avance sur les autres, parce que c'était une nouveauté. Et force est de constater qu'il y avait parmi ces astucieux des personnes qui ont compris que leurs idées, si elles ne passaient pas fondamentalement dans les débats conciliaires, parce qu'il y avait un vrai désir de renouveau, mais dans un enracinement dans la tradition, ce qui est la position de Ratzinger, alors les médias, dans la façon de présenter les choses, auraient la possibilité de prendre certaines libertés avec ce qui a été réellement dit. L'histoire semble donner crédit à cette position, puisque lorsque nous consultons les textes conciliaires, c'était une vraie actualisation, un vrai aggiornamento, et en même temps ancré dans une tradition, ce qui était finalement la position de Ratzinger. Ça a été toujours sa position, quelqu'un qui, avec Saint-Augustin, avec sa bonne aventure, avec la Bavière, a vécu toujours ancré dans une vraie tradition, mais avait conscience du besoin de cette nouveauté. C'était d'ailleurs la portée de son discours de Gênes. Mais voyant effectivement que, les débats conciliaires, je pense, n'ont pas été tellement abîmés par ce qui est dit là, ce que je viens de présenter, mais de nouveau, la façon dont ils ont été présentés, qui a fait que ensuite, lorsque les commissions épiscopales des différents pays ont voulu commencer à appliquer un peu les fruits du concile, alors ils ont appliqué plutôt ce qui était dit dans les rapports de presse que ce qui était réellement dit dans les textes.
C'est ce que défend, d'ailleurs, c'est ce qu'a toujours défendu Ratzinger en parlant d'herméneutique de la continuité et non pas d'herméneutique de la rupture.
Tout à fait.
D'ailleurs, c'est un dernier discours qu'il a fait en tant que pape sur le Concile Vatican II. C'était devant les séminaristes de Rome, me semble-t-il.
Exact.
Où pendant une heure, il a fait une conférence sur la manière d'interpréter le Concile. On voit que ça lui a énormément tenu à cœur. Et ensuite, il est donc confronté en Allemagne à des déboires, enfin des attaques au sein de l'université. Lui-même, dans le mouvement de mai 68, a du mal à faire cours. Enfin, il voit l'université telle qu'il l'a connue se déliter pour aboutir à autre chose.
Oui, il voit cela et en même temps, il trace son chemin. C'est-à-dire qu'il a effectivement beaucoup changé de poste. Tout le monde le demandait. Alors, les changements de poste d'une université à une autre s'expliquent pour plusieurs choses. Je vais pas rentrer dans les détails, mais partout où il est, on l'écoute et il ne se sent pas contraint de devoir changer ses positions, etc. Il a toujours eu conscience d'avoir quelque chose à dire, justement, de proposer cette nouveauté du christianisme ancré dans une tradition. Donc effectivement, il y a beaucoup de contestations, il y a des tentatives de le discréditer, de lui enlever la parole, mais lui, lorsque vraiment c'est trop difficile, alors il accepte l'opportunité d'aller travailler dans une autre université, il accepte toujours de discuter, et souvent ses détracteurs sont impressionnés par son ouverture au dialogue et sa capacité à défendre des positions très pertinentes, mais... voilà, il a mené une carrière universitaire particulièrement élogieuse, intéressante et riche, et ne s'est pas laissé freiner par les attaques ad hominem.
Alors, à sa grande surprise, il est nommé archevêque de Munich par le pape Paul VI en 1977. Sa surprise, parce que lui se voyait comme un universitaire et absolument pas comme un évêque. Et puis ensuite, il est créé cardinal. Et peut-être encore plus surprenant pour lui, Jean-Paul II l'appelle à Rome. Alors, il avait croisé le cardinal Wojtyla à Rome pendant le concile, et finalement en 1982, donc au début du pontificat de Jean-Paul II, celui-ci l'appelle à Rome, le nomme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et ça a été un des piliers du pontificat. Peut-être avant d'aborder la Ratzinger préfet, peut-être évoquer ce qu'est exactement la Congrégation pour la doctrine de la foi et en quoi ce poste est important et donc quelle a été aussi l'importance du rôle de Ratzinger pendant le pontificat de Jean-Paul II.
Donc la congrégation pour la doctrine de la foi est effectivement une institution très ancienne qui auparavant s'appelait le Saint-Office, ce qui est resté dans les mémoires aussi comme justement l'organisme qui procédait à l'Inquisition. Elle a été réformée justement aux suites du Concile, l'idée étant effectivement de défendre la vraie foi. Voilà, de défendre la vraie foi, donc d'examiner ce qui est publié, ce qui est dit, de répondre aux questions, aux grandes interrogations du temps, etc. Ce que, effectivement, Ratzinger a fait à bien des reprises sur des grands mouvements théologiques, sur des grands mouvements, tout simplement, de la société, pour que, effectivement, le dépôt de la foi catholique puisse être, contre vents et marées, préservé dans les différentes évolutions, aussi bien de ce qui est dit dans l'Église que ce qui est dit dans le monde.
Et à ce titre, il a eu à affronter beaucoup de problèmes au cours du pontificat de Jean-Paul II, la théologie de la libération notamment. Il y a eu le problème de déviance doctrinale multiple. Et puis, il y a aussi eu un texte paru en 2000, Dominus Iesus, sur la question des rapports avec les églises protestantes qui a aussi été mal perçu et sur lequel il a fallu qu'il défende également la position qui était celle de la congrégation, dont le texte a été publié avec l'accord du pape, évidemment.
Tout à fait. Il est certain que il y avait une intention très fréquente depuis déjà son temps de professorat et puis ensuite comme il était préfet pour la doctrine de la foi de souvent déformer ses propos. Alors attention, peut-être il faut que je me corrige. Ses propos étaient très souvent déformés, disons-le plutôt comme cela. C'est-à-dire que souvent, par exemple, ce document Dominus Iesus, qui était un document doctrinal qui reprenait des points pour les catholiques, a été utilisé pour discréditer en disant ce pape est contre l'œcuménisme, il fait un retour en arrière, etc. Alors que de nouveau il éclaircissait un point de doctrine catholique pour les catholiques, et d'ailleurs les protestants, la plupart de ses interlocuteurs protestants, les gens qui le connaissent, ses amis, etc., n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait cette agitation sur tel ou tel sujet, sur ce sujet-là, dans la mesure où ça ne s'adressait pas directement à eux. Et en fait, je note cela parce que dans plusieurs sujets, la théologie de la libération que vous avez mentionné, ou d'autres points de doctrine, c'était quelqu'un qui avait une capacité à expliquer les choses, mais il faut quand même prendre un peu de temps pour l'écouter, pour le lire, et il était très aisé de prendre un petit point du discours pour pouvoir l'utiliser à ses fins, qui consistait souvent à le discréditer, à lui donner cette image de laquelle il n'a jamais réussi à se défaire, ou peut-être n'a-t-il pas essayé, du fameux Panzer cardinal. Donc le traditionaliste rétrograde est complètement fermé à tout ce qui pourrait venir de la nouveauté, des temps modernes, etc.
Oui, alors que lorsque l'on le lit, on se rend compte que sa pensée est beaucoup plus fine et complexe que les caricatures qui ont été faites de lui. Et notamment, Ratzinger a un grand amour de la musique. C'est quelqu'un qui a une vie assez ascétique, mais une grande passion pour la musique. Et on voit que sa passion pour la musique, c'est pas simplement celle d'un mélomane, mais qu'il rattache ça aussi à une philosophie, à une vision du monde plus complexe. Il a beaucoup écrit sur la musique elle-même, et évidemment, en tant que Bavarois, on comprend qu'il était aussi grandement influencé par toutes les musiques allemandes ou italiennes qui sont passées par chez lui.
D'autant plus qu'il était dans une Bavière très proche de l'Autriche. Donc, il a plusieurs fois, avec ses frères et sœurs, été à Salzbourg pour écouter des concerts. Son frère, donc Georg, qui a été aussi ordonné prêtre en même temps que lui, est devenu pendant plusieurs dizaines d'années le chef de chœur de la Manécanterie de Ratisbonne, donc le chœur d'enfants. Effectivement, la musique était très présente. C'était une évidence que l'éducation d'un jeune Bavarois catholique était aussi une éducation musicale. Donc, il a lui-même appris le piano jusqu'à aujourd'hui, je crois, peut-être pas ces derniers mois, mais il s'asseyait à son piano assez souvent. Et comme vous le dites, la musique a toujours beaucoup occupé sa pensée. l'idée que la vérité, c'est le titre d'un livre d'un de ses grands amis, Balthazar, la vérité est symphonique. Il y a donc un lien entre une vérité, la vérité de la révélation, la vérité de la foi, la vérité de la raison, et la façon dont elle peut être présentée d'une façon symphonique, d'une façon harmonique, quelque chose qui est aussi marqué par une esthétique.
On a peut-être plus de mal en France à se rendre compte de cette importance de la musique parce qu'on a un peu perdu cette tradition, notamment des chorales et puis de la grande musique classique. On ne manque pas de compositeurs et d'auteurs importants, mais ça s'est peut-être un petit peu perdu. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle il est revenu tout au long de sa vie, dans de nombreux textes. Il évoque ces questions musicales. Vous avez cité Hans-Urs von Balthasar. Ratzinger est aussi un homme qui a entretenu des amitiés intellectuelles à la fois avec des gens qui sont très proches de lui et aussi des amitiés intellectuelles avec des gens qui étaient opposés, voire en opposition frontale avec lui. Malgré tout, on voit qu'il a toujours eu un souci, peut-être de l'homme de l'université, d'avoir un débat intellectuel, y compris avec des gens qui étaient virulemment opposés à sa pensée.
Je pense que c'est lié au fait qu'il était très sûr, non pas sûr de lui, mais sûr de sa pensée. C'est-à-dire qu'il avait conscience de sa capacité intellectuelle, il avait la conscience aussi de l'œuvre qu'il était appelé à développer, et son œuvre consistait notamment justement à chercher la vérité dans une grande ouverture. Et donc, effectivement, il avait de grandes amitiés intellectuelles, des personnes qui l'ont beaucoup influencé, notamment le cardinal de Lubac, qui est une personnalité importante dans le paysage de la théologie, spécialement en France, mais je pense dans le monde, dans les années justement du concile, de l'après-concile. Il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas de sa religion ou qui n'étaient pas de sa confession, avec lesquelles il a mené des conversations très riches. Il a toujours été considéré par les intellectuels juifs comme un homme avec lequel on pouvait discuter dans bien des déclarations officielles du côté d'Israël, où des grands rabbins disaient le débat entre le dialogue entre les juifs et les catholiques n'a jamais été aussi riche que sous Ratzinger et ensuite sous Benoît XVI. Et puis aussi, il a entretenu des liens d'amitié avec des personnes catholiques, mais qui n'étaient pas d'accord avec lui. Notamment, la biographie parle très souvent d'une personnalité qui n'est pas très connue en France, mais qui l'est beaucoup en Allemagne, qui s'appelle Hans Küng, qui était au départ vraiment un compagnon, dans le sens où, lorsque le concile a commencé, dans les années 60, il faisait partie de ces jeunes théologiens qui désiraient vraiment la nouveauté. Et puis ensuite, ils ont pris des chemins différents, et Hans Küng l'a très souvent tensé, attaqué, parfois même de façon pas très honnête, et Ratzinger a gardé cette ouverture, cette capacité à discuter des sujets sans se laisser prendre par des querelles d'hommes.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro pour présenter la vie de Joseph Ratzinger, et je rappelle l'ouvrage que vous avez traduit, donc la biographie de Peter Sewald, Benoît XVI, Une vie, qui est parue aux éditions Cora. Le tome 1 est paru aux éditions Cora, qui est d'ailleurs accompagné d'un cahier de photos pour retrouver aussi quelques éléments de la vie de Joseph Ratzinger, et le tome 2, qui est quasiment, dont la traduction est quasiment terminée, donc que les auteurs francophones pourront normalement, si tout va bien, voir à l'automne pour lire ce qui est aujourd'hui la biographie la plus importante sur Joseph Ratzinger. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.